Si vous faisiez une petite liste rapide de ce qu'on ne voit pas assez sur les scènes et que vous aimeriez voir, ça commencerait par quoi, Marion Sieffert?
Des gens qui rigolent, des gens qui pleurent, des plantes qui poussent, des arbres, des animaux.
Laetitia Carfa, vous savez?
Des gens qui viennent pas de là, à la base, qui viennent pas de la scène, qui n'ont pas forcément fait d'école ou qui viennent pas forcément d'un milieu artistique, où l'art, il est sauvage.
Vanessa Larré.
Ce qui m'est venu comme ça, c'était des gens moches, des gens gros, des gens vieux, des gens qu'on voit partout, en fait, dans la vie, mais pas forcément sur un plateau.
Cécilia Bengolea.
Des gens qui sont vraiment... émus par leur danse ou qu'ils peuvent transmettre des émotions vraies, parce que c'est comme si les émotions sur scène c'était plus à moi depuis longtemps.
Il est 20h sur France Culture et Laetitia Carfa entre en scène et dit « c'est pas normal que je sois là ». Elle dit « c'est pas normal parce que j'ai pas fait d'école de théâtre, la vie que j'ai vécue ne permettait pas à une fille comme moi d'arriver là ». Là, c'est au théâtre, dans une mise en scène de Marion Sieffert. Elle rappe, elle se raconte et surtout elle se métamorphose. Personne ne l'enferme dans son histoire, elle a 1000 vies et comme elle dit, plusieurs possibilités de moi. Plus tard, elle rappe, on ne subira pas la défaite. Cécilia Bengolea aussi met la fierté sur scène. Elle voyage depuis 6 ans en Jamaïque et participe au dance hall, mélange de boîtes et de balles populaires. Elle nous propose de passer plusieurs heures à danser pour reconstituer ce corps collectif qui avance à plusieurs. Le dance hall, c'est le reggae en plus punk, encore moins normal et encore plus fier et militant. Ça non plus, ça ne devait pas arriver dans un théâtre. Vanessa Larré, elle, dans son spectacle La Passe, fait se rencontrer deux comédiennes et une ancienne prostituée. Ce n'est pas normal non plus que vous, les spectateurs, vous soyez là. Là, c'est-à-dire en train de danser avec Cécilia Bengolea, en train d'entrer par l'arrière de la scène chez Vanessa Larré, en train chez Marion Sieffert de voir deux visages pour la première fois, dont celui de Laetitia qui ironisait en disant « Marion, tous les jours, elle se disait que demain, je serais pas là ». On entre sur une scène où tout ce qui n'est pas normal sera là et bien là. C'est une émission spéciale autour du festival TNB à Rennes, au Théâtre National de Bretagne, du 6 au 17 novembre, 2 semaines de spectacles, de débats, de rencontres, de projections, de concerts, avec des artistes qui s'apprêtent à partir à Rennes en studio ce soir avec nous. Nous sommes avec Marion Sieffert qui met en scène Du Sale au TNB du 6 au 9 novembre avant de poursuivre sa tournée en novembre à Toulouse, à Marseille, avant de revenir à Aubervilliers en décembre. Nous sommes avec une des deux interprètes, Laetitia Carfa. Nous sommes avec la chorégraphe Cécilia Bengolea pour nous parler de Oneness Party Animal, la soirée du 9 novembre à 23h au TNB. Et avec nous, Vanessa Larré pour son projet La Passe. Ce sera du 15 au 17 novembre au TNB, dernier week-end du festival. C'est tous en scène sur France Culture et ça commence par la voix de la rappeuse Kazé.
Ce que j'aime dans le rap, ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait aimer le rap et ce que j'aime faire, c'est dire sa vérité. Voilà, c'est vraiment ne pas avoir la langue liée, quoi. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a de plus... dans les arts en général, en fait, c'est la vérité. Quelqu'un puisse être ou dire sa vérité sans fioriture, sans détour, et être lui-même et montrer son propre univers sans complexe, sans être contraint par les modes du moment ou voilà, quelque chose de brut. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît. Je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est ce qui me plaît, donc c'est ce à quoi j'aspire. Après, je ne sais pas si j'y arrive. C'est considéré comme hardcore. Moi, ouais. Je ne me considère pas comme hardcore. Je suis cool, je mange des bonbons à la menthe, j'adore les glaces à la fraise. Je suis tranquille.
C'était la voix de Kazé, Laetitia Carfa. Est-ce que pour vous, le rap, c'est le lieu de la vérité ?
Bah ouais, c'est le lieu de la vérité, mais c'est aussi le lieu du mensonge. C'est-à-dire qu'en vrai, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut appartenir à tout et n'importe quoi, et c'est ça qui est génial. Le lieu de la vérité, bah, c'est parce que ça dépend de ta vérité. La vérité, chacun a sa propre vision de la vérité. Après, c'est vrai que moi, dans mes textes, je rappe mes mensonges et mes vérités.
Et au théâtre ? Le théâtre, c'est le lieu de quoi ?
Bah, je sais pas encore. Je suis en train de le découvrir. Voilà, je suis en train de le découvrir avec Marion Schieffer, ma metteuse en scène, petit à petit. Je sais pas.
Voilà. Marion Schieffer, cette pièce du Salle, c'était une pièce d'actualité au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, la numéro 12. Et vous aviez en tête, avant de rencontrer Laetitia Carfa, de trouver une femme qui puisse s'imposer dans un milieu d'hommes et qui frappe avec ses mots. Je crois que c'est vous ce que vous dites.
Oui.
C'est venu d'où ce désir assez fort et précis ?
Ce serait long de tout raconter, en fait. Ça a pas mal... À chaque fois, les pièces, ça met du temps à s'installer chez moi. Et là, il y a eu plusieurs choses, en fait. Il y avait l'envie, enfin, un très grand amour du rap, l'envie de travailler avec des gens qui le faisaient, parce que c'est des personnes que j'admire beaucoup. Cette capacité de s'écrire, de se raconter, et puis de se mettre en rythme, et puis de défendre son texte comme ça devant un public sur scène. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et puis voilà, je voulais trouver une fille parce que il y en avait moins. Du coup, ça me permettait de pas être courtisée par tous les rappeurs d'Île-de-France. et donc voilà. Et puis c'était assez excitant en fait de me dire je cherche quelqu'un. Je sais pas encore qui c'est. Je la cherche pendant 3 mois et je me laisse entraîner là où je sens que je vais pouvoir la trouver. Mais j'y crois en fait. J'y crois que je vais la trouver. Et finalement, la rencontre a eu lieu.
Et qu'est-ce que ça a changé, Marion Schieffer, avant de revenir au spectacle du Salle, votre détour en Allemagne à Berlin ? Parce que dans les années 2010, vous partez à Berlin, puis vous allez faire une école de théâtre là-bas, qui est assez différente de ce que vous auriez fait dans un conservatoire en France. Et vous racontez que vous découvrez certains collectifs, comme par exemple chez Chipop, qui est un collectif féminin qui travaille aussi beaucoup à partir d'un matériau documentaire. Qu'est-ce que ça modifie dans votre façon de voir et d'appréhender le théâtre ?
En fait, c'était pour moi, parce que voilà, j'étais en France, je voulais faire du théâtre, mais j'arrivais pas du tout à en faire de la manière où la plupart des gens en faisaient. Du coup, je me disais, bon, c'est pas trop pour moi, j'étais pas prise dans les conservatoires, dans les castings, tout ça. Donc, j'avais un peu laissé tomber. Et puis, en Allemagne, en fait, c'est plus... j'ai vu pas mal de spectacles à Berlin, et c'est là où, je sais pas, j'ai compris que j'avais besoin d'attendre personne, en fait. Que c'était... j'avais juste besoin de... je pouvais construire ma propre relation au spectacle, au spectateur, et pas prendre un texte ou rentrer dans... Enfin, je pouvais penser tout de manière autonome, la lumière, le son, disposer les gens là où j'avais envie qu'ils soient assis, faire une fête si j'avais envie de faire une fête. Et qu'en fait, c'était ce rapport-là au public que j'avais la liberté, moi, d'organiser. Et ça a été hyper... ça m'a fait comme un grand coup d'air frais et ça m'a donné beaucoup de courage.
Et cette pièce du Salle, c'est la troisième pièce que vous imaginez, oui. Marion Schieffer. Dans le spectacle, donc vous êtes deux, il y a Laetitia Carfa et il y a Janice Bielleux, qui est une danseuse. Et Laetitia, vous racontez au début du spectacle, dans une adresse comme ça au public, très simple, comment vous êtes arrivée là, justement. Et vous racontez la rencontre avec Marion Schieffer et le casting. Et donc là, je vois Marion, la metteuse en scène, grand silence, elle est grave impressionnante, elle est blanche, elle vient pas du même milieu que moi et je sais pas ce qu'elle pense.
Tout à fait.
Et vous, vous pensez quoi quand vous êtes face à elle ?
Déjà, je pense pas beaucoup parce que je suis très stressée. Donc en vrai, j'ai que mes textes de rap dans la tête. de me dire qu'il faut pas que je me foire, qu'il voilà, faut que je fasse mes textes à fond. Après, comme je le dis, il y a cette peur parce que bah voilà, comme je le dis, je la connais pas, elle est blanche, elle vient pas du même milieu que moi. C'est dans un grand théâtre, c'est au théâtre de la Commune que j'ai fait mon casting, exactement voilà comme c'est dit dans
la pièce. À Aubervilliers.
À Aubervilliers, tout à fait. Donc du coup, elle était avec Mathieu. Voilà, à qui je passe un grand big up aussi, Mathieu Barrère. Stressé dans un autre sens, la manière dont Marion me regardait, parce que ses yeux vraiment, ils me perçaient, quoi. J'avais l'impression vraiment que l'écoute, elle était là, et je sentais petit à petit, parce qu'après j'ai fait mon son de Damso, pour ceux qui verront la pièce, un remix, et en fait j'ai ressenti petit à petit que elle était avec moi. C'est des petites perceptions sur le visage qu'on croit.
Et vous, vous attendiez quoi, vous, en venant là?
C'est une très bonne question. Commencer quelque chose.
Et vous aviez quelles idées, vous, peut-être préconçues sur justement l'endroit où vous arriviez, ce théâtre
C'est vrai que moi, je pensais que ça allait vraiment être... j'allais arriver avec des déguisements, faire du Molière, avec des grands chapeaux. Et des grandes perruques. Enfin, voilà, le théâtre, quoi. Parce que moi, je viens pas du milieu du théâtre. Après, non, j'avais pas vraiment d'a priori, parce que déjà, à la base, dans le casting, on savait pas vraiment là où elle voulait en venir. C'est après que j'ai su qu'elle non plus... qu'elle a créé sur le moment. Mais du coup, à la base, je savais pas vraiment ce qu'elle voulait. Je savais juste qu'elle voulait une rappeuse qui, voilà, qui rappe sa vie. Ça me correspond tout à fait. Donc du coup, je me suis dit bon et je pensais pas que ça allait aller aussi loin en fait. Donc pour moi, c'était je fais le casting et puis si elle me kiffe, c'est cool. Si je suis prise, c'est cool. Puis peut-être que j'irai pas plus loin. Et puis voilà quoi.
Et ce qui est beau dans le spectacle, c'est que justement, ça commence par votre histoire, par l'histoire de cette rencontre, ce casting et de pourquoi vous êtes là. Et ensuite, il y a une métamorphose. Vous parlez très vite de toutes les vies que vous avez envie d'avoir. En tout cas, vous n'êtes pas du tout enfermée. Évidemment, dans ce récit des cinq premières minutes et dans cette histoire-là, juste. Et puis après, il y a vraiment un costume et ça va vraiment devenir du théâtre à un moment. C'est toujours du théâtre, mais en tout cas, dans l'idée que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir un costume et de jouer un rôle qui existe avec un texte. Et ça, j'imagine que c'était important pour vous aussi, Marion Sieffert, cette idée de métamorphose, en tout cas de quelqu'un qui devient, qui a toutes les possibilités en lui.
Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, pas jamais savoir qui est là sur scène en fait. J'aime bien que les spectateurs aient toujours cette inquiétude, cette espèce de sentiment d'insécurité d'écouter quelqu'un, de se dire ah d'accord, elle est comme ça, ah mais en fait non, elle est pas du tout comme ça, et de se sentir aussi un peu manipulée, mais dans un sens où voilà, on va pas réduire la personne à des caractéristiques qui se comptent sur les doigts d'une main et qui seront stables pour toujours et ça va jamais changer. J'aime bien que justement dans le théâtre on puisse avoir accès à des gens qui ont le courage de se représenter de manière complexe, contradictoire, d'assumer des contradictions. Et parce que j'espère que du coup, par effet miroir, les spectateurs sur scène, ils s'interrogent sur eux, quoi. Ils se disent, peut-être que je suis pas exactement comme ce que je pensais être, la case dans laquelle je suis. Et du coup, c'est ça la liberté, je trouve.
Et comment vous travaillez? Parce que j'imagine que la rencontre avec Laetitia Kerfa et Janice Bielleux, la danseuse, ça commence quand même par le récit, par leur histoire, par un échange et par le témoignage, enfin l'histoire. Et puis ensuite, vous imaginez une forme qui devient complètement, qui se développe. Comment concrètement le processus, comment ça marche ensemble?
C'était jamais du témoignage. Ça a toujours été d'emblée on fait un spectacle, d'emblée on est dans la situation de représentation, d'emblée on est dans le jeu en fait. Après, avec les deux, elles sont très différentes, très complémentaires. Et du coup, c'était aussi moi trouver comment j'allais faire une place pour chacune, de manière à ce que l'une et l'autre se répondent et qu'elles aient... C'est comme si voilà, je les vois et je me dis, voilà, il y a toute cette amplitude-là et j'ai envie qu'on la sente et de les faire aller au bout d'une palette de jeux pour Laetitia, d'intensité de danse pour Janice. Et du coup, c'était En fait, dès le début, j'avais envie qu'on sente que voilà, ce qui était, enfin vraiment, je me basais aussi de ce qui se passait vraiment sur ce qui se passait vraiment en répétition, sur tout ce que Laetitia a dit. C'est pas, elles sont pas censées être là, et pourtant elles vont avoir la scène pour elles toutes seules pendant une heure et demie, et j'ai envie qu'elles la retournent en fait, et que et du coup c'était d'emblée, on a commencé très vite à travailler avec des personnages de théâtre, avec des fictions. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que la fiction, elle permet aussi de se raconter et d'aller plus loin en soi. Donc ça nous ouvrait des portes. À un moment, elle devient Lady Macbeth. Et donc Lady Macbeth, elle est arrivée, je sais pas, le troisième jour de répétition. Et donc, c'est juste que Lady Macbeth, elle a permis d'ouvrir plein d'autres portes.
Il y a Lady Macbeth et puis il y a aussi une scène très drôle où vous parlez des hommes, Laetitia Kerfa, et du rapport des hommes aux femmes, et vous en voulez aux mères parfois d'avoir peut-être mal raconté, mal préparé, et c'est une scène qui est extrêmement drôle. Et là vous avez une robe comme une robe de Cendrillon en fait, une robe
La Belle et la Bête.
Ouais, La Belle et la Bête, une robe de bal. Comment vous avez navigué à l'intérieur de ça, parce que vous dites au début je venais parce que j'attendais quelque chose de nouveau, mais sans idée précise. Mmh. Qu'est-ce que vous avez découvert de la scène, du théâtre, puisque vous connaissiez la scène avec le rap, mais là, c'est une autre façon de la connaître?
C'est surtout vis-à-vis du public, en fait. C'est vis-à-vis du public que j'ai vu de la différence entre mes scènes de rap, quand je fais du rap, que je monte, que je fais un concert, et la scène du théâtre. Parce que du coup, le public n'est pas du tout le même. Et en fait, sachant que nous, dans la pièce de théâtre, y a beaucoup de moments où je fais du rap. Et même dans les moments où je fais pas du rap, bien sûr que c'est du théâtre. Après, comme je le répète, moi, je viens pas d'une école de théâtre, ce qui veut dire que je sais pas forcément ce qu'est le théâtre, en fait, à la base. Et donc, il y a une manière très... C'est-à-dire que dans les scènes de rap, j'attends beaucoup de retours du public. Le public, il me donne la force. Vous voyez, du style « Hey, oh, hey, oh !» Il y a toujours un retour. Il y a toujours une validation du public qu'il n'y a pas au théâtre. Et donc, du coup, c'est un mélange. Un mélange de peur... qui est transmis, et puis c'est pas la même écoute. Dans le rap, c'est dans les concerts, c'est une écoute où on est tout de suite ambiancé, c'est pour s'ambiancer, c'est pour entendre le rythme, c'est pour entendre la musique, on va pas forcément écouter les paroles. On va écouter l'artiste, on kiffe, et puis après quand on rentre chez soi, on réécoute. Alors que là, le théâtre, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est... Voilà, je peux pas faire un CD ou je peux pas envoyer une captation. Enfin voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans l'instant. Et donc l'écoute, elle est pas la même. Je pourrais trouver des avantages, des inconvénients dans les deux. Voilà.
Et dans le spectacle, vous dites j'ai besoin de mon moment de peur, j'ai besoin d'avoir peur, c'est toujours vrai?
Tout à fait.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça vous porte?
Je me dis que c'est un petit peu en tout, parce que sans peur, on n'a pas de joie et puis on peut pas être tranquille. Si on est tout le temps tranquille, enfin on sait pas ce que c'est d'être tranquille. J'espère que je me suis fait bien compris.
Enfin, ouais, voilà. Puis je pense que la peur, mais c'est toujours lié au désir.
Moi, j'ai besoin de peur dans ma vie parce que j'aime pas la stabilité et parce que aussi j'en ai jamais eu. Et que après je suis peut-être aussi à la recherche, je sais pas. Mais c'est vrai que la peur c'est un quotidien dans ma vie qui me permet de me booster et de créer aussi beaucoup.
Et parfois, vous avez hésité vraiment à venir et à monter sur scène? Ou à venir jouer?
Plein de fois, j'aurais pu ne pas être là. Ouais, ouais. Plein de fois. Il y a eu plein de répétitions, il y a eu plein de... Oui, oui, bien sûr. C'est parce que Marion, elle a cru en moi. C'est parce que Marion, elle est venue me chercher. Vraiment. Vraiment. Je veux dire, en dehors du théâtre, en dehors, elle est venue me chercher. En fait, la pièce de théâtre, elle a mûri et en vrai, elle a été réussie grâce à la confiance en fait que j'avais en Marion et la confiance aussi que petit à petit elle a eu en moi. Voilà, mais c'est ouais, sans ça, il y aurait pas eu de pièce, c'est sûr.
Et petite, je m'inventais des vies, c'était quel genre de vie?
Ne me dire que j'ai des parents, que je rentre le soir, que on me lit une histoire, que je fais mes devoirs, que mon père il est là à côté en train de me lire mon histoire et que voilà, j'ai un ascenseur et que je suis et que j'ai un Noël et que j'ai un nouvel an et que j'ai des loisirs et que voilà, c'est s'inventer des choses que nous on n'a pas eu, que moi j'ai pas eu, mais que je voyais à l'école mes camarades ou etc., ce qui était censé être la vie normale de quelqu'un de normal que moi j'avais pas, et que du coup je m'inventais, et au Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas s'inventer. Parce qu'en vrai, ce que je veux dire, c'est que quand on s'invente, au final, on a. Je me suis inventée rappeuse, je suis devenue rappeuse, je me suis inventée comédienne, aujourd'hui, je suis comédienne. Même si c'est un truc de ouf de dire ça. Je suis très fière. Mais je sais pas si... Voilà. C'est peut-être un petit peu confus, mais...
Non, c'est très clair.
C'est ce que je pense.
Ouais. Cécilia Bengolea, vous aussi, vous aimez vous inventer des vies. Parce que votre corps et la scène telle que vous la travaillez, elle est très ouverte à la métamorphose aussi, chaque fois.
Oui, c'est vrai que pour moi, la danse que j'ai appris en Argentine, c'était une danse de transformation, une danse, soi-disant, anthropologique. Parce qu'on étudiait des danses très anciennes de Sud-Amérique, de l'Inde, du Japon, et on cherchait un peu qu'est-ce qu'il y avait en commun entre ces danses et aussi les différences. Ils apparaissaient tout de suite, mais c'était intéressant comme des rituels qu'on faisait pendant plusieurs heures, tous les jours, 3 heures, les matins. Et c'était une école qui s'appelait, oui, ça vient d'Eugenio Barba, de Grotowski. Il y a un groupe Odin Theater à Danemark. Et il y a un de ses élèves argentins qui habite à Buenos Aires et qui tourne avec eux. Alors, il nous apprenait ça. Et pour moi, toujours, la danse, c'était pas trop pour faire des spectacles, sinon pour réfléchir, pour méditer, pour être un peu en transe, pour après créer des personnages, écrire des textes et faire du théâtre. La danse, c'était comme un moyen pour créer quelque chose sur scène, mais pas directement la danse. Parce qu'en Argentine, il n'y a pas une tradition de danse contemporaine. C'est pour ça que je suis venue ici, parce que il n'y avait pas vraiment beaucoup de compagnies ni beaucoup de situations de travail intéressantes. Et ici, on peut danser avec des gens de tout le monde, ce qui est plus intéressant pour moi parce que chacun danse avec des esprits et des cultures et des passés très, très différents.
Et vous voyagez beaucoup aussi?
Oui, je voyage quand même. Et j'habite à Paris depuis 15 ans, mais je ne suis pas souvent ici, peut-être juste 2 mois par an, je suis à Paris. Et le reste du temps, je suis beaucoup en Sud-Amérique, à Cuba, à Jamaïque, aux États-Unis. Je travaille avec des compagnies parfois là-bas, des sortes de commandes. Mais sinon, ce que je préfère, c'est danser dans la nature, dans la rue, qui amène aussi beaucoup de forces, des éléments de la nature. Et on imite, ou on fait des danses un peu, qui imitent les éléments de la nature et les animaux et les... Et beaucoup d'humour aussi, il y a aussi des choses de blagues, pour passer un moment. C'est aussi un moment très long, la danse dans la rue que je fais en Jamaïque ou à Cuba. Des moments très longs, toute la journée ou toute la nuit. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette pièce avec des danseurs jamaïcains.
Et je pense à Vanessa Larré, on en parlera de votre spectacle ensuite, mais vous aussi, vous créez vraiment des rencontres, en fait, qui n'auraient pas pu ou pas dû avoir lieu, soit déjà entre des interprètes sur scène, et puis entre ce qui se passe sur scène et les spectateurs.
Oui, c'est vrai, c'est
en tout cas, vous avez provoqué des rencontres. On parlait de ça.
J'ai provoqué des rencontres et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est fou, en fait. Comment on peut amener ça au plateau? Est-ce qu'elle va dire oui? Je pense à Catherine, qui n'est pas d'ailleurs une ancienne prostituée. Elle est toujours au travail. Ouais, comment est-ce qu'elle va déjà accepter la rencontre? C'était un miracle. Et puis ensuite, comment est-ce qu'elle va venir avec nous dans l'aventure du plateau? Et moi, comment je vais pouvoir créer quelque chose qui ait du sens, quoi, pour elle, pas pour moi, pour elle, vraiment. Enfin, c'est-à-dire, pour moi, oui, mais il faut que ça ait du sens pour elle, parce que sinon, tu montes pas au plateau, quoi. Pas avec une histoire pareille, pas avec...
Et ça parle beaucoup de peur aussi, au départ, de monter au plateau, comme Laetitia Carfa.
Ouais, elle en parle tout le temps. Là, on est en répétition en ce moment à Annecy, et ça revient régulièrement, et je pense que c'est un des enjeux. On a eu une discussion super belle avant-hier, ou hier, je sais plus, j'ai perdu un peu la notion du temps. Là-dessus, en fait, comme quoi c'était un défi pour elle, parce que mais pour elle, mais pour Laurence Mayor, qui est comédienne dans le spectacle, pour Camille Dagen aussi, il y a un défi, en fait, à monter sur scène, et tu viens rencontrer quelque chose qui te fait peur.
On va écouter un petit message pour vous toutes d'Arthur Nosiciel, qui dirige le Théâtre National de Bretagne, donc à Rennes, et qui va vous accueillir dans quelques jours, qui n'a pas pu être là avec nous et donc qui nous a laissé un petit mot, qui s'est enregistré.
Bonsoir, je ne peux pas être avec vous ce soir, mais à la demande d'Aurélie, Je vous fais parvenir ce message en guise de salut pour vous dire que je suis heureux de vous accueillir au festival TNB et que j'ai hâte de vous y retrouver, de vous retrouver à Rennes dans les prochains jours. Ce qui m'a donné envie de vous y accueillir et ce qui, je pense, hein, vous réunit ce soir, c'est quelque chose qui est en commun dans vos projets, où on dépasse le discours qui serait constat social ou revendication en inventant en fait des dispositifs, des gestes artistiques qui racontent dans leur processus même la libération de quelque chose, une libération spirituelle, émotionnelle ou énergétique même, et l'envie d'échapper à tout type d'assignation. Et vous avez aussi comme travail en commun un principe qui est celui de la rencontre, un principe collaboratif qui me touche beaucoup et auquel je suis moi-même plutôt très sensible. Et la rencontre est au centre du projet et qui fait que la vie, dans le fond, est la matière même de vos propositions artistiques et la vie serait l'art et l'art nourrirait la vie. Voilà. Et Aurélie aussi m'a demandé 3 questions pour vous. J'ai envie de vous en poser autour de la rencontre, justement. Marion, ton spectacle, c'est la rencontre entre deux performeuses étonnantes. Et je crois qu'il y en a une autre qui t'a beaucoup marqué, si tu veux bien nous en parler. C'est celle de Francis Bacon avec Daniel Sylvester. À Vanessa, tu fais se rencontrer une actrice et une prostituée. Qu'attendais-tu de cette rencontre? Et surtout, qu'est-ce qui s'est en réalité passé quand Laurence Mayor et Catherine T se sont rencontrées? Et enfin, Cécilia, un peu en guise de clin d'œil à ses collaborations très nombreuses, mais plus particulièrement avec François Chéniaud, est-ce que, Cécilia, tu te sens plutôt pâquerette, sylphide ou duchesse?
Cécilia Pâquerette, sylphide ou duchesse? C'est les titres de certaines des performances que vous avez faites, soit ensemble, soit séparément avec François Chéniaud.
Oui. Peut-être que pâquerette. Je dois dire pourquoi ou c'est bon?
Comme vous voulez. Ça peut rester énigmatique.
Pâquerette.
Pâquerette. Marion Sieffert, peut-être, il évoque la rencontre entre le critique d'art et qui s'est entretenue pendant une vingtaine d'années avec Francis Bacon. J'imagine que c'est long de parler de pourquoi ça vous a. C'est important pour vous, mais peut-être quelques mots.
Je ne pensais pas du tout qu'on allait me ressortir ça.
Merci Arthur Nosiciel.
Bah non, mais en fait, c'est que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps et c'était après coup, en fait. C'était après avoir fait la pièce et je me suis souvenue de ces tableaux de Bacon que j'avais vus. Et en fait, je ne sais pas, c'est quand parfois je suis un peu perdue quand je crée des pièces et quand je... J'arrive pas trop à... Enfin, je sens une sorte de... Enfin, j'ai comme une image dans la tête, mais c'est très... Je sais pas, c'est encore très confus. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et du coup, en fait, je sais pas, ça m'est souvent arrivé de repenser à ces tableaux-là. En fait, c'est un peu comme si dans la tête, j'avais une... Parce que je fais des portraits, en fait, beaucoup. Dans les pièces, toutes mes pièces, c'est des portraits, en fait. Je fais pas exprès, mais... Et Bacon aussi, il a peint que des portraits en époque où tout le monde faisait de l'art abstrait. Et lui, il a tenu à vouloir représenter les gens et les représenter à travers son regard à lui, ce qu'il voyait. Et puis, il y a quelque chose à vif, parfois même cruel, où il n'a pas peur de la violence et de la tendresse du regard.
Vanessa Larré, on va retarder un tout petit peu la réponse à la question d'Arthur Nosiciel quand on va parler du spectacle La Passe. Et peut-être que Laetitia Carfin, on peut, puisqu'il y a un micro derrière nous, en studio, est-ce que vous vous lèveriez pour chanter?
Ce sera avec plaisir.
Ce morceau, il s'appelle Grillé, c'est ça?
Tout à fait. Alors bonjour, moi c'est Laetitia Carfa, hashtag originality. En studio avec Marion Sieffert, Vanessa Larré, Cécilia Bengolea. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charme.
crier dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Les rap me demandent si je frappe, ils croient que je suis frié dans ma tête. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Les rap me demandent si je frappe, ils croient que je suis frié dans ma tête. Je t'en remplis bien caché. Écrasement, double cachet, ok. Tu te précipites, je t'élimine, vite. Féminine, good girl, mais mon jogging est pratique. Babe, je t'imagine, grisine. Mais j'ai tout ce qui te manque, le fric, le look et la weed. Ray, je t'écris jusqu'à demain. Ray, t'épicerie, 4h du matin. Petit capricène, je vois nos darons. Allez, ta fée, c'est ce qu'un tes mains. Je t'écris jusqu'à demain. Ray, t'épicerie, 4h du matin. Petit capricène, je vois nos darons. Allez, ta fée, c'est ce qu'un tes mains. Sniquer les reins, bon, je m'en fume le j'ai pété les freins, la caisse accélère, je vais niquer le rinté. Pour l'oseille, pour la fierté. Je vais niquer le rinté. Pour l'oseille, pour la fierté. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Mes rappes me demandent si je rappe, ils croient que je suis crié dans ma tête. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Mes rappes me demandent si je rappe, ils croient que je suis crié dans ma tête. Plutôt solitaire comme go, sauf si c'est pour faire péter mon flow. Si tu te demandes d'où viennent les vapes, c'est pro, il enlève son. Plus à ma juillet donné chaud. Non mais allô, t'es pas chez Navi, complètement dingo. Il veut que je me déshabille, je vais niquer facile. Bon, tu dois sortir de l'asile. Non, et tu te la pètes, tu dis que tu veux me la mettre. Tu gonfles de pec, pour toi c'est easy. Mais ça me casse la tête, solo dans mes jets, solo dans mes hess. Tu pourras pas me piéger. Et tu te la pètes, tu dis que tu veux me la mettre. Tu gonfles de pec, pour toi c'est easy. Mais ça me casse la tête, solo dans mes jets, solo dans mes hess. Tu pourras pas me piéger. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Mes rap me demandent si je rap, ils croient que je suis frié dans ma tête. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Mes rap me demandent si je rap, ils croient que je suis frié dans ma tête. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Mes rap me demandent si je rap, ils croient que je suis frié dans ma tête. Je crois que je suis crié dans ma tête, je veux pas me crier dans ma cité. Mes rap me demandent si je rap, ils croient que je suis frié dans ma tête.
Cécilia Bengolea, vous commenciez à faire quelques mouvements sur le morceau de Laetitia Kerfa.
Oui, je faisais un mouvement de Craig Black Eagle, qui danse avec nous à Rennes, qui s'appelle Fly Over Them. Donc c'est un mouvement des aigles, on fait des ondulations.
Il faut que vous imaginiez devant votre poste de radio, mais là on est debout en studio et Cécilia Bengolea est vraiment en train de nous montrer l'aigle, le volcan. Et justement, le dancehall, vous comparez souvent... certaines danses urbaines ou populaires que vous explorez au ballet classique. Et là, le dancehall, vous dites, il y a quelque chose de l'élévation ou du rebond qui peut faire penser au ballet.
Oui, en fait, le ballet, c'est vrai que c'est concrètement très élevé à cause des pointes. Et nous, on n'a jamais étudié les pointes avec les danseurs de ma compagnie, mais on pratique pour inventer des autres mouvements, des autres techniques d'élévation avec ces pointes. Mais dans les dance hall, on ne fait pas de mouvement de pointe, mais c'est vrai qu'avec les torses et avec les sternum, que c'est quand même un des centres des émotions, et il y a beaucoup de mouvements qui ondulent et qui donnent envie d'ouverture et d'empathie avec le corps de l'autre.
Et par exemple, là, puisqu'on est debout en studio, un des mouvements récurrents du dance hall, ce serait quoi?
Quand on est à la rue, on a suggéré de faire un espace, mais il n'y a pas de combat ni de battle là-bas. Tous les gens dansent ensemble, mais il y a beaucoup de mouvements qui aident quand même à faire la place. Donc,
à se frayer un passage.
Des ailes, mais un peu pour donner des coups de coude en même temps. Mais oui, il y a la compétition des naturels, mais pas des battles comme en Europe. Là-bas, les gens, ils compétitionnent peut-être pour voyager avec leurs pas, pour propager leur danse. Mais c'est différent et c'est intéressant aussi que ça se voit dans le corps, ce combat, cette envie d'expansion.
Dancehall, comme son nom l'indique, c'est de la musique pour les boîtes, on va dire, enfin l'équivalent des boîtes en Jamaïque. Et donc c'est arrivé en même temps. Les sons de système à la base, c'était pour faire de la promotion. Alors au début, c'était des sons de système ambulants. Ils étaient dans un camion. Il y avait tout ce qu'il fallait pour diffuser le son le plus largement possible. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, ils ont commencé à faire ça dans des salles et ainsi de suite. Mais à la base, c'était vraiment un instrument de promotion. C'est devenu comme une tradition. C'est devenu un truc propre à la Jamaïque. C'est devenu des soirées inoubliables. Mais à la base, c'était vraiment pour faire la promotion de la musique dancehall, c'est-à-dire un reggae un peu plus festif que le reggae roots qu'on avait l'habitude d'entendre. My girl come flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Make your bumper flip like a flippagram, flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. You're deaf, girl, wind up on my body.
Ça, c'est un des morceaux phares de l'artiste jamaïcain Charlie Black, Party Animal. C'est le titre aussi de la performance. Ce sera le 9 novembre à 23h au Théâtre National de Bretagne, donc juste après le spectacle de Marion Sieffer et Laetitia Kerfa. Vous pourrez aller danser avec Cecilia Bengolea. Et alors, la durée annoncée, c'est entre 2 et 5 heures.
Oui.
Donc c'est très, très ouvert. Et le dancehall en Jamaïque, je crois que vous voyagez depuis maintenant presque 6 ans, depuis 2014 en Jamaïque, Cecilia Bengolea. Le dancehall, c'est aussi un mode de vie, au-delà d'être... Enfin, ça ressemble à... C'est quoi ce style de vie au-delà de ces fêtes, qui sont entre des fêtes de boîte, mais à l'extérieur, dans l'espace public, des bals populaires. Ceux qui le pratiquent vraiment au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour eux?
Oui, en fait, les gens qui sont dans l'entertaining en Jamaïque, ils sont des artistes, les danseurs, les DJ. Et en ce moment, il y a un state of emergency, comme un coup d'état ou quelque chose comme ça en Jamaïque, parce que selon eux, il y a trop de descontrôle et à cause de beaucoup de crimes. Mais c'est aussi pour donner une bonne impression aux investisseurs de que la ville est tranquille, qu'ils veulent un peu fermer les fêtes très tôt. Donc les fêtes, ils commencent maintenant vers 10h au lieu de minuit. Avant, on pouvait finir les fêtes à 10h du matin dans la rue et il y avait plusieurs, beaucoup sont système partout. Et maintenant, tous les DJ et tout, ils se plaignent, ils font des protestations parce qu'ils sont un peu en train de détruire leur business et la culture pour laquelle il y a plein d'étrangers qui viennent et être avec eux, parce que c'est vraiment un moment d'être ensemble très fort, et qu'ils ont beaucoup de joie, et que les gens peuvent travailler dans ça. C'est très créatif dans la mode, dans la musique, dans la danse. Et en fait, c'est ça un mode de vie, c'est tous les jours, surtout de lundi à jeudi, et après aussi le dimanche, c'est là où il y a le plus de fêtes. Vendredi et samedi, il n'y a pas beaucoup de fêtes. Mais c'est pour eux un mode de vie. Les DJ gagnent beaucoup d'argent parce que tous les artistes jeunes, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils passent leurs chansons à la fête. Donc ils donnent aussi beaucoup d'argent aux danseurs et ils font des concours à la minute à inventer pour leur donner de l'argent aux filles, etc. Les garçons, ils sont vus par des touristes comme moi et ils les invitent, on fait des visas pour qu'ils viennent enseigner ou faire un spectacle. Donc il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'économies autour de ça. Si vous regardez en Russie ou en Chine ou en Japon, il y a tout le temps des Jamaïcains qui sont en train d'enseigner là-bas. Oui, partout, aux États-Unis, partout, ici aussi.
Et vous le disiez tout à l'heure, vous décriviez les mouvements d'ailes ou de coudes pour se frayer un passage dans la foule, parce que c'est vraiment aussi une écriture à plusieurs, parce que c'est forcément, on est forcément au milieu des autres.
Oui, c'est vrai que c'est un langage collectif des multi-auteurs, on dirait, dans lequel tous les danseurs, ils inventent des pas toutes les semaines, et les pas, il est plus important, plus relevant si beaucoup de gens les font. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette culture dans laquelle on peut tous, on est, si on danse leur pas, si on les promotionne, si on met leur nom, on est en train aussi de promouvoir leur culture, leur esprit, leurs idées. Et c'est vrai qu'on est dans un moment dans lequel, heureusement, il y a beaucoup de mouvements contre les appropriations culturelles, des gens qui utilisent les cultures qui ont été déjà soumises par, historiquement. Et, ou qui ont eu un pays qui a eu une histoire de soumission. Et ce n'est pas possible d'utiliser les cultures des gens qui viennent de ce pays sans les nommer, sans les promouvoir, sans les inviter, etc. Donc, c'est vrai qu'on fait tout pour que ça ne se passe pas comme ça, mais il y a encore des situations dans lesquelles les danseurs de Jamaïque, ils disent qu'ils devraient quand même avoir des droits d'auteur quand les gens dansent leur pas.
Dans la performance au théâtre, il y a aussi des vidéos, parce qu'en fait, vous avez tourné beaucoup de vidéos depuis des années en Jamaïque, dans l'espace public où vous êtes en train de danser. Donc là, c'est un petit extrait d'une vidéo. Et pendant la performance, vous dansez, vous invitez les gens à danser avec vous. Et en fait, il y a un logiciel qui mixe les vidéos en direct. Donc il y a beaucoup d'images aussi sur lesquelles, qui sont face aux spectateurs, face à chacun. C'est quoi le rapport justement à peut-être à la nuit et à l'espace public du dance hall, parce que il y a beaucoup dans les vidéos d'endroits différents, de rues, de sous un belvédère, sous plein de petits endroits qui sont comme des noms d'endroits où finalement ils sont investis par la danse, et puis c'est souvent la nuit, donc il y a quelque chose de dans l'obscurité, de assez poétique aussi dans ce que vous avez filmé.
Oui, c'est vrai. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir pu filmer il y a quelques années partout dans la rue la nuit. Parce que comme je vous dis, il y a plus en plus d'interdictions de mettre la musique après 22 heures pour se contrôler, essayer de rendre le pays rangé comme tous les autres pays qu'on connaît. Et c'est pour ça que malheureusement, c'est un endroit vraiment de beaucoup de liberté et de beaucoup d'inspiration, parce qu'on peut être à la nature très tard à danser dans des endroits que peut-être dans le reste des pays, comme si on ne peut pas, pourvu que ça continue aussi en Jamaïque.
Que ça continue aussi en Jamaïque, évidemment.
Ouais.
Laetitia Kerfa, vous êtes convaincue d'aller à 23h après le spectacle, le 9 novembre, à la soirée de Cecilia Bengolea pour danser?
Alors, il faut le savoir, je ne suis jamais convaincue de rien.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, il faut vraiment
vous
savoir.
Vous pouvez pas être là.
Mais, oui, je pourrais ne pas être là. Ouais. Mais ce sera un grand plaisir d'être là. Ouais. Puis moi, j'adore la danse, j'adore la musique. Donc du coup, carrément. Carrément. Carrément, avec plaisir. Ouais. C'est un kiff. Surtout le dancehall.
Un boulanger, une couturière. On ne va pas dire ex-boulanger, ex-couturière. Parce que vous restez pour toujours ce que vous avez exercé, ce que vous avez réalisé, créé. Donc moi, j'estime que je suis prostituée ad aeternam. Pour moi, je l'ai dit et redit dans des congrès, même je l'ai dit en allemand, en anglais, en français, j'ai dit c'est un art, c'est un humanisme et une science, à condition d'être pratiqué volontairement et dans de bonnes conditions. L'éducation que j'ai reçue avec mes deux petites sœurs, eh bien, ne comportait pas le mot prostituée. Donc, on ignorait même que ça pouvait exister. Donc, on nous a appris à aimer et pratiquer la musique, la lecture. J'ai appris le latin, le grec, j'ai tout oublié. Nous avons fait des études, j'ai fréquenté une école d'art et métier à Zurich où j'ai obtenu un diplôme qui m'a servi à rien. Alors voyez-vous, on nous avait indiqué que le meilleur chemin c'était de se marier, faire des gosses et être heureuse. Eh bien c'est pas évident d'être heureuse si vous vous mariez et que vous faites des gosses. Je m'en suis aperçue, moi.
Vanessa Larré, vous avez reconnu la voix de Chrysélis Réal, auteur, peintre, suisse et prostituée, qui parlait donc de son travail. Je crois que tout ce projet, ce spectacle qui s'appelle La Passe aujourd'hui, il y a eu plusieurs étapes. Au tout départ, vous aviez envie d'adapter une œuvre de Chrysélis Réal. Comment c'est né? Comment vous avez découvert? Vous êtes intéressée à son œuvre?
Moi, je suis née à Genève. Donc Chrysélis Réal, c'est vraiment quelqu'un, c'est une personnalité très connue là-bas. Mais je savais pas qu'elle écrivait. Je la connaissais surtout comme grande gueule. Elle prenait position dans les médias. Elle faisait des shows en ville. Enfin, c'est vraiment une super meuf, quoi. Mais je savais même pas qu'elle écrivait. Et une amie à moi m'a dit, mais un jour, elle a monté un spectacle. Elle a fait une adaptation de plusieurs textes et elle m'a dit, mais est-ce que tu as déjà lu? Et j'ai dit non. Et j'ai lu « Le noir est une couleur », qui est le premier récit autobiographique qui est assez puissant. Après, c'est beaucoup des échanges de lettres avec notamment Jean-Luc Hennig. Et celui qui m'a bouleversée, c'était « Les Sphinx ». Et je me suis dit, alors là, parce que moi j'ai une passion pour les vieux. Et une vieille pute qui tient comme ça... Un journal de sa vie. Enfin, c'est sublime, quoi. Il faut lire Chrysélis Réal. Et donc, j'ai tenté une première adaptation, mais j'étais vraiment, je pense, pas du tout à la hauteur. Puisque quand j'ai donné le texte à lire, qui s'appelait à l'époque Le cimetière des reines, parce que pour elle, il lui fallut l'inventer, comme disait Jean-Luc Hennig. Parce qu'à Genève, le cimetière des grands hommes, comme on l'appelle, c'est le cimetière des rois. Et donc, quand j'ai donné ce texte à Laurence Mayor, en fait, elle m'a dit, j'avais rendez-vous avec elle et elle était hyper emmerdée. Elle m'a dit, je suis désolée, j'adorerais travailler avec toi, mais ça me parle pas. Alors que moi, j'ai des choses à dire, j'ai vécu des trucs. La prostitution, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que Chrysélis Réal, je pense qu'il faut humblement monter ses textes et pas faire des adaptations. Bidon au théâtre, enfin je sais pas, en tout cas moi je me sentais pas du tout de faire ça. Par contre, la rencontre avec Laurence qui était une rencontre hyper forte humainement, et ce qu'elle m'a dit tout d'un coup, ce qu'elle m'a révélé, deuxième jour de résidence qu'on a fait, il y a eu une espèce de bombe qui a été lâchée, là je me suis dit bon bah c'est ça la pépite du spectacle. Et puis chemin faisant, je me suis dit bon maintenant il est temps de rencontrer une vraie prostituée pour d'abord... moi, expérimenter la rencontre avec quelqu'un qui serait d'accord de témoigner d'une vie de prostitution. Et puis ensuite, évidemment, de faire se rencontrer Laurence et cette femme. Et à un moment donné, je voulais abandonner le projet parce que j'arrivais à rien. Tout était... j'étais perdue, quoi. Et j'ai déjeuné avec une amie qui m'a dit mais qu'est-ce qu'il te faudrait pour que, si tu pouvais faire un vœu, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai dit, je voudrais rencontrer une pute et lui parler et qu'on devienne amie ou je sais pas quoi, qu'on... c'est tout, on verra. Et en fait, elle m'a dit, moi j'en connais une. Et c'était Catherine. Et dès que j'ai laissé un message à Catherine, elle a tout de suite accepté qu'on se rencontre. Elle a tout de suite accepté d'être filmée dans les entretiens qu'on a fait ensemble. Et voilà, chemin faisant, alors là, je pourrais peut-être répondre à la question d'Arthur.
Arthur Mazicel qui vous demandait qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand Laurence Mayor a rencontré Catherine T.
Bah, la première fois qu'elles se sont rencontrées, c'était comme si elles se connaissaient depuis toujours, quoi. Donc c'était juste hyper émouvant, hyper une évidence comme ça. Et moi, j'enregistrais tout. Elles étaient d'accord que j'enregistre. Je retranscrivais. Après, on allait au plateau, avec Laurence dans un premier temps, parce que j'ai mis du temps à convaincre Catherine. Parce qu'elle me disait, je te donne tout, tu prends. Mais me demande pas de monter au plateau. Et un jour, je lui ai dit, mais en fait, si tu montes pas au plateau, ça n'a pas de sens, quoi. Et elle a dit, bah d'accord. Et à partir du moment où elle avait dit oui, en fait, c'était oui. C'était une parole d'honneur, c'était fort, quoi.
Et de là, donc il y a eu quelques rendez-vous, mais la première fois qu'on était réunis avec Camille aussi d'Agen, parce que c'était très important pour moi qu'il y ait une jeune femme, qui ce soit pas seulement un dialogue, mais que ce soit vraiment quelque chose d'ouvert.
Donc sur scène, il y a deux comédiennes et puis Catherine T.
Voilà.
Laurence Mayer.
Enfin, pour moi, elles sont les trois comédiennes, parce qu'en fait, à partir du moment où les interprètes sont au plateau, c'est comédien, quoi. Et donc, à partir du moment où elles ont été réunies, on a eu une résidence en avril dernier. Et là, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que ça s'est révélé, quoi. C'était, je filmais, j'envoyais quelques balles par-ci, par-là, avec ce que je sentais. Mais en vrai, elles m'ont révélé le spectacle.
Et on parle beaucoup de regard, d'ailleurs, dans le spectacle. Ça commence quand Catherine T évoque sa peur de monter sur scène. Elle part tout de suite des regards qui attendent quelque chose de vous et de cette chose commune, peut-être, que partagent les prostituées et les comédiens, les comédiennes, d'avoir ce regard et cette pression sur soi, et en tout cas une attente. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, et qu'est-ce qu'on a envie de donner, d'offrir, d'exposer, de vendre ou pas? Et c'est très beau la façon dont elle amène cette question du regard.
Alors, c'est comme on n'a pas créé le spectacle encore, ce que vous avez vu, en fait, ça arrive à la fin. C'était un morceau que je trouvais qui donnait à sentir un peu la nature du projet. Mais effectivement, cette parole, elle la prend à la fin, après avoir traversé des strates d'une autre nature, on va dire. Mais c'est vrai que le projet, il était aussi très en lien, puisque moi, j'étais comédienne pendant longtemps. J'ai toujours été très mal à l'aise à cette place, tout en ayant le sentiment de devoir expérimenter quelque chose là, puisque j'étais là. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais aimé ça, je me suis toujours sentie pillée, en fait, en tant que comédienne et en tant que femme. Enfin, je trouve qu'il y avait un parallèle toujours. Après, c'est des histoires individuelles, c'est des mémoires qu'on a et qui se revivent dans des situations. Moi, au plateau, ça a été ça. Et donc il y a eu un moment donné où j'ai vraiment cherché une jeune comédienne qui est Camille maintenant, et j'ai adoré le matériau de l'audition. Et donc il y a aussi tout un matériau qui a été ramené dans le champ de la pièce, qui sont ce qu'on dit toutes ces femmes qu'on a filmées, donc qui seront aussi présentes d'une façon.
L'an dernier au TNB, il y avait déjà une installation. Oui. Avec là, justement, ces matériaux que vous aviez de voix, de visage, que vous aviez filmé, ces témoignages qui, là, en ce moment, sont en train de se transformer sur scène.
Moi, j'aimerais bien réussir à créer dans mon parcours des objets, pas que des objets de théâtre seuls. Je trouve que c'est beau d'avoir d'autres approches, d'autres mises en perspective. Et les cabines, c'est effectivement quelque chose qui a été présenté au festival l'année dernière et qui rassemblait dans deux cabines téléphoniques des témoignages de prostituées, d'actrices d'un côté, et des témoignages de clients de l'autre. Et elle sera à nouveau là, parce que c'est un objet que je souhaite qu'il accompagne le spectacle.
Laetitia Kerfa, vous avez préparé un morceau qui n'a même pas de titre, tellement il est nouveau.
Exactement.
Spécialement fait, presque pour nous.
Exactement, tout à fait. Wow. Sculpture directe.
Direct. Ouais, on y va alors.
Allez. En direct de France Culture, un grand merci. Un big up à Marion Sieffer. Au Berzou. 9-3, 9-4. J'ai les yeufs, tu peux appeler les keufs, ouais. Je vais me bouger les seufs, toi jamais toucher ma touche, non. Ma peau tracée de la peuf, mon vécu c'est pas la teuf, non. Non, je n'ai pas de ref, ma sécurité c'est mon œuf. Blah. J'ai le shit et j'ai les yeufs, tu peux appeler les keufs, ouais. Je veux me bouger les seufs, toi jamais toucher ma touche, non. Ma peau tracée de la peuf, mon vécu c'est pas la teuf. Non, je n'ai pas de ref, ma sécurité c'est mon œuf. Blah. Excès de vitesse sur le BPM, algérienne, guadeloupéenne, je sais me défaire de mes chaînes, j'ai le seum. D'une esclave, j'ai l'ADN. 400 ans que j'ai la haine, mais d'une putain de reine, j'ai les gènes. 75, 0, 2, 93 et GDN. À chaque nouveau quartier, nouvelle école, nouvelle dégaine. C'est l'époque d'MSN, l'époque de la DSL. Des premiers poils sous les aisselles, dans les tapes, j'arrachais les tresses. C'est le stress. J'ai traîné dans tous les quartiers de Paname. Chez les Pac-Pac, chez les Renois, chez les Arabes. Je suis de nulle part et de partout. Big up la irascible, plus gantée de mes petits bapous. J'ai pris des coups, j'en ai rendu. J'ai grandi en fut tendu. Dis pas que j'abuse, je veux voir la juger. Les éducateurs pendus, sans tu que je remets les pendules à l'heure, vu tout ce qu'on a enduré. Et toi, petite salope de psy, va te faire enculer. J'ai le shit et j'ai les yeufs, tu peux appeler les keufs, ouais. Je veux me bouger les seufs, toi jamais touché ma touche, non. Ma peu tracée de la peuf, mon vécu c'est pas la teuf. Non, je n'ai pas de ref, ma sécurité c'est mon œuf, blah. J'ai le shit et j'ai les yeufs, tu peux appeler les keufs, ouais. Je veux me bouger les seufs, toi jamais touché ma touche, non. Ma peu tracée de la peuf, mon vécu c'est pas la teuf, non. Non, je n'ai pas de ref, ma sécurité c'est mon œuf, blah. Nique classe, c'est la base. Rendez-moi mon enfance, bande de bâtards, j'ai la rage. Y'a toute ma vie dans tes dossiers, mais je vais booster comme une bosse. Mes rêves de gosse sans négocier. Ramenez-moi les trophées en rap en cinéma. Doute de moi et je te démontrerai comme un meuble Ikea. Qu'est-ce qu'il y a, je fuis les lois. Moi j'ai poussé sans racine. À l'époque y'avait pas de casting, je cassais des gueules sur Bastille dans les halls. Je faisais dodo, poteau. Ce touriste doit encore se demander où est passé son appareil photo. Je veille trop tôt, un peu claustro, un peu costaud. Vu que même la jambe cassée, je vais pas à l'hosto. Toi. Tu dis qu'il y a foil, mais je fous le faya, bande de faillots. Allez fuyez la petite fillette du foyer. Les plus grands voleurs sont pas des Kaira. Demande à Fillon, mais t'inquiète pas, j'ai les contrats, j'ai les cravates, j'ai les filons. J'ai les shit et j'ai les yeufs, tu peux appeler les keufs, ouais. Je veux me bouger les seufs, toi jamais touché ma touche, non. Ma peu tracée de la peuf, mon vécu c'est pas la teuf, ouais. Non, je n'ai pas de ref, ma sécurité c'est mon œuf, bla bla. En direct de France Culture, au Giletti, du sale Marion Sieffer, ba ba bam.
Laetitia Kerfa, maintenant, avant de monter sur scène, avant le spectacle, vous arrivez à vous dire c'est normal que je sois là?
Non. Ah non. Je pense que ce serait pas cool même. Non, je suis bien dans... Je suis bien comme je suis. Je me sens bien dans ce statut, enfin dans ce... Dans cette hésitation, quoi. Parce que ce sera jamais normal. Ce sera jamais normal.
Et on devient presque quelqu'un d'heureux sur scène?
Presque quelqu'un de normal. Mais là, du coup, c'est voilà, c'est mes peurs en fait. C'est mes peurs que je remets sur la scène, parce que ça me fait peur d'être quelqu'un d'heureux, d'être quelqu'un de normal. Parce que, bah, comme je le dis dans la pièce, je sais que moi, je serai jamais quelqu'un de normal et que j'ai pas eu la stabilité quoi à la base qu'on a en tant qu'enfant, en tant qu'être humain. On est censé être comme ci ou comme ça. La société nous donne un regard et le regard extérieur, on s'en imprègne et on se dit que c'est comme ça qu'on doit être comme ça. Et en fait, pas du tout. Bam, bam, c'est what a bam.
On a commencé par C'est pas normal que je sois là pour faire entrer sur la scène toutes les vies et tous les visages. Ne ratez pas le festival du TNB, Théâtre National de Bretagne, c'est à Rennes, ça commence le 6 novembre et ce sera jusqu'au 17 novembre. Je dis merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, merci à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir, merci à Pierre Monteil et Antoine Espel. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture. Ce sera l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.
Mais les femmes Jamaica me a go to England. A ye Jamaica bien me say them come put me pan. But have to me punch to the immigration. Si say Papa Fatty you fi sing one song. Say what a bam bam. Say what a bam bam. Chi bang bang di lang bang bang. Bang bang di lang bang bang. Say what a bam bam. Say what a bam.